Nous voici dans la seconde partie du magazine Okapi Service. Quels sont les préalables à réunir pour réduire la fréquence des cas de noyade dans les cours d'eau de la République démocratique du Congo? Nous en parlons avec le professeur Jean-Dédié Minengou. Il est coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable ACTED en sigle et porteur du projet portant création du Fonds national d'entretien des voies fluviales et ferroviaires, FONEF en sigle. Professeur Jean-Dédié Minengou, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Tati, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi, la radio de la paix.
On vous garde en ligne. Si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct et témoigner au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Utilisez le même canal, utilisez le numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous attendons également vos suggestions dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Ndilengandjou Mapoukou, c'est moi qui présente et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Élise Kavira réalise cette émission et Alain Goy s'occupe pour sa part de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une bonne condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Des naufrages sont fréquents sur les cours d'eau de la République démocratique du Congo. Au cours des 6 derniers mois, plus de 180 personnes ont perdu la vie et 600 individus sont portés disparus dans divers incidents sur le fleuve Congo et ses affluents. Les derniers cas remontent au 15 avril dernier où plusieurs personnes ont perdu la vie à la suite de l'incendie d'une baleinière baptisée HB Kokolo sur le fleuve Congo. Les drames s'est produit selon nos sources dans la soirée près de la localité de Nganda Kinshasa, alors que l'embarcation effectuait une liaison entre les ports de Bolenguet au niveau de la ville de Mbandaka et les villages Ngondo dans la même région, selon des sources locales. Alors, que faut-il faire ou quelles sont les actions concrètes à mener ou à réaliser dans le secteur du transport fluvial et lacustre pour remédier efficacement à cette situation? Nous en parlons avec, nous débattons ces sujets avec le professeur Jean-Dédié Minengou. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable et porteur du projet portant création du Fonds national d'entretien des voies fluviales et ferroviaires, FONEF en sigle. Professeur, dites-nous, vous partagez avec nous les constats qui est fait, les constats assez malheureux des cas de noyades à répétition sur les cours d'eau de la RDC.
Oui, merci beaucoup Tati. Je crois que ça, tous les Congolais savent que quand vous prenez une unité flottante à République démocratique du Congo, il y a très peu de chances d'arriver à la destination, comme vous venez de le dire. En tout cas, on compte de nombreux morts à cause des accidents sur les voies d'eau navigables de la République démocratique du Congo. Alors, vous avez dit qu'est-ce qu'il faut faire, mais je pense que...
Oui, mais il y a également des cas qui ne sont pas documentés, des petites embarcations, des pirogues, il y a des cas qui ne sont pas aussi documentés parce que le Congo est vaste.
Bien sûr, c'est comme vous avez dit, il y a eu 180 morts, il y a eu plusieurs disparus, ça s'est fait comme vous venez de le dire, mais il y a des cas qui ne sont pas documentés, il y a des cas qui ne sont pas annoncés, des cas dont les médias n'ont pas fait allusion. Donc on peut arriver autour de 1000, 1500 personnes et qui sont parties comme ça à cause des difficultés que nous avons en rapport avec la navigation en République démocratique du Congo. Alors quelles sont d'abord les causes principales des naufrages sur les eaux de la République démocratique du Congo? Tati, vous venez de le dire peut-être en partie, le pays a près de 25 000 kilomètres de voies d'eau navigables. Et ces voies ont des difficultés pour être entretenues. Donc, la cause principale des noyades, des naufrages sur les eaux de la République démocratique du Congo, c'est le manque d'entretien. Les 25 000 voies sont subdivisées en trois parties. Vous avez le bief supérieur, vous avez le bief moyen et vous avez le bief inférieur. Le bief supérieur, vous avez là-bas vers Bundu, vous avez les lacs qui sont dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Les biefs moyens, vous avez Kisangani sur le fleuve Congo jusqu'à Kinshasa, vous avez la rivière Kasai, vous avez la rivière Ubangi, et les biefs inférieurs, vous avez Matadi jusqu'à l'embouchure. Et ces trois biefs sont gérés, à ce qui concerne l'entretien, par des structures que l'État a mises en place. Vous avez la régie des voies fluviales qui gère les biefs supérieurs et les biefs moyens, et vous avez la Congolaise des voies maritimes qui gère les biefs inférieurs, comme je l'ai dit, qui va de Matadi jusqu'à l'embouchure. Mais comme vous le savez, Tati, ces structures qui ont le mandat de pouvoir entretenir, aménager les voies d'eau navigables de la République, ne disposent pas des moyens nécessaires pour réaliser ce travail avec plus d'efficacité et de responsabilité. C'est pourquoi aujourd'hui, la navigation devient pratiquement impossible, que ce soit la journée, que ce soit la nuit. Vous avez les bandes de sable, il n'y a plus de balises, il n'y a plus de signalisation sur les rivières, et n'importe quelle unité flottante peut se retrouver soit sur une bande de sable, soit sur des pierres, soit sur des bois, et avec tout ce qu'il y a comme conséquence et accident sur les eaux de la République. Ça, c'est la première cause de naufrage sur les eaux de la République démocratique. La deuxième cause, Tati, c'est la qualité du personnel navigant. Nous sommes dans une situation où n'importe qui peut rassembler quelques bois, quelques planches, il fabrique une unité flottante, et bien il met ça sur la voie d'eau, il commence à naviguer. Mais quelqu'un qui n'a aucune compétence, qui n'a aucune formation nécessaire pour piloter une unité flottante. Pourtant, nous avons ce qu'on appelle l'école de navigation dans notre pays. Nous sommes parmi les rares pays qui avaient cet établissement, l'école de navigation, pour former les personnels navigants. Malheureusement, n'importe quel charlatan, comme ça se fait sur la voie routière, tout ce qu'on appelle chauffeur, donc n'importe qui peut se réveiller le matin, quelqu'un qui est venu apprendre pour devenir mécanicien, mais demain, il devient chauffeur, il commence à conduire, on a des accidents partout. Donc c'est la même chose qui se passe également au niveau des voies d'eau navigables. Donc, n'importe qui est un transporteur de sacs de manioc au port de Mamangalou de Selko, le lendemain, il pilote un bateau. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a personne qui contrôle tout ça.
Il y a également une défaillance dans la construction de ces unités d'embarcation. De l'amateurisme.
Très bien, c'est par rapport. Après la qualité du personnel navigant, il y a aussi la qualité des unités flottantes. Est-ce que le baleinier, les bateaux qui circulent sur les eaux de la
République... Les radeaux...
C'est une norme technique.
Les radeaux, ce sont des grimes assemblées et qui...
C'est extrêmement grave. Alors, donc, la qualité de ces unités reste vraiment désiré. Vous avez un bateau qui ne répond à aucune norme technique, vous avez une baleinière, et ils vont même rassembler le bois, radeau, pour commencer à naviguer sur les eaux de la République démocratique du Congo. Donc à la fin, je crois qu'il faut s'attendre à des accidents de tout genre. La troisième cause, Tati, c'est l'absence de contrôle sur les voies d'eau navigables. Donc s'il y a des unités qui ne répondent pas aux normes, mais qui circulent sur les eaux de la République démocratique du Congo, il faut avoir le courage de dire.
Oui, mais professeur, il y a des commissaires maritimes qui sont affectés, déployés à travers les pays, qui travaillent pour faire le contrôle.
Ici, je vous parle en tant qu'expert. Je vous dis des choses comme elles se présentent, parce qu'on ne peut pas construire une nation quand on ne dit pas les choses comme elles se présentent. Il faut dire qu'ici, ça va, ici, ça ne va pas.
Oui, mais la RVE n'est pas des agents.
Des commissaires maritimes.
Il y a les commissaires maritimes qui travaillent sur terrain.
Mais quel est le travail du commissaire maritime? Moi, peut-être que toi, tu n'as jamais pris un bateau. Moi, j'ai déjà pris le bateau avant de venir à l'université. Tout ce que je faisais, c'est de circuler à travers le bateau. Le seul contrôle, toi, tu prends des avions. Moi, j'ai pris le bateau. Le seul contrôle qui s'opère, c'est la demande de l'argent. Vous avez votre argent, vous pouvez surcharger votre embarcation. Il n'y a pas de problème. Votre embarcation peut être en mauvais état. Il suffit de donner quelques francs congolais. Vous passez. Donc, il n'y a pas un contrôle sérieux. Vous avez parlé de ce qui s'est passé en Banakaret. Et si vous devez voir la cause réelle, c'est qu'il n'y avait pas de contrôle. On ne devrait pas, peut-être, les gens ont navigué la nuit. Mais comment les gens peuvent naviguer la nuit, tout en sachant qu'il n'y a pas de signalisation sur les eaux de la République démocratique du Congo?
Et en surnombre, avec des colis.
En surnombre, il y a des surcharges. Et puis, finalement, les gens que vous appelez qui font le contrôle et laissent passer les... Donc, il y a une absence totale de contrôle sur les eaux navigables de la République démocratique du Congo. Une autre cause aussi, et, mais qui n'est pas directement liée à ce qui se passe, c'est que les textes qui régissent les secteurs de navigation, voire même les secteurs ferroviaires en République démocratique du Congo, datent de l'époque coloniale. Vous avez le décret royal de 1920, le décret royal de 1924, de 1930. Alors, c'est quand même grave quand vous allez analyser tous ces éléments. Donc, après plus de 60 ans, on n'a pas actualisé les textes qui régissent les secteurs de navigation, tout comme du chemin de fer en République démocratique du Congo. Pendant que la République s'est engagée sur la voie de la mondialisation, pendant que la République s'est engagée dans la zone de libre-échange continental, il fallait adapter nos textes en ce qui concerne la navigation, en ce qui concerne le chemin de fer, par rapport aux réalités du monde contemporain. Mais nous sommes restés à l'Antiquité avec les textes. Alors, quelles sont les solutions, comme vous avez parlé, parce qu'il faut aller très vite
avant d'y aller,
aux solutions.
Oui, professeur, avant d'y aller, donc, avant d'y aller, de proposer une solution, permettez-nous d'aller au standard pour donner la parole aux auditeurs. Ils sont nombreux qui veulent prendre la parole. Donc, et puis, on va retourner au studio et puis évoluer dans cet entretien. Quels sont les préalables à réunir pour réduire la fréquence des cas de noyade dans les cours d'eau de la République démocratique du Congo? C'est le thème que nous sommes en train d'aborder dans cette seconde partie du magazine Okapi Service. Et si ces sujets vous intéressent, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix. Vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Le premier auditeur, il s'appelle Kishima Albert. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous d'Okapi Service.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour aux auditeurs de la radio Okapi.
Vous intervenez depuis quelle ville, s'il vous plaît?
J'interviens depuis la ville province de Kinshasa et merci pour la thématique du jour.
On vous donne la parole.
Je commencerai d'abord par dire que j'aurais souhaité que dans cette émission, qu'on ait comme l'invité quelqu'un qui travaille au ministère des Transports afin de pouvoir se saisir des allégations que nous sommes en train de faire au jour le jour pour donner à qui des droits afin d'envisager les solutions idoines. Monsieur le journaliste, je suis le témoin oculaire.
Un cher auditeur, un petit détail, c'est une personne habilitée parce que il est responsable de l'Agence congolaise de transition écologique et de développement durable et porteur d'un projet qui devrait dénommé Fonds national d'entretien des voies fluviales et ferroviaires qui devrait être mis en place pour assainir un peu le secteur. Allez-y.
D'accord, merci. Comme j'ai commencé par le dire, je suis témoin oculaire des désordres qui gangrènent le secteur des transports et surtout sur la voie fluviale dans notre pays. J'ai eu le temps de faire un long périple de Kindu à Ubundu et de Ubundu à Kisangani, de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Monsieur le journaliste, nous connaissons tout le monde et tout ce que de Kindu à Ubundu, c'est le bief navigable. De Ubundu à Kisangani, c'est non navigable. Lorsque nous étions au niveau de Ubundu, il y avait des pagayères qui s'étaient permis de vouloir chercher à nous séduire pour dire que non, ne prenez pas la voie terrestre, venez au niveau de la chute, nous avons les mécanismes que nous pratiquons pour vous faire traverser à l'aide des pirogues. Bon, par mesure de puissance, nous n'avons pas voulu obtempérer à cette injonction, mais il y a ceux qui avaient accepté et ils étaient quand même passés. Cela veut dire quoi? Le ministère des Transports a un grand travail à faire dans son secteur. De faire la réforme d'abord de son personnel, les former pour savoir quoi faire dans le secteur des voies fluviales. Au niveau de Kindu, lorsque nous avions débarqué, sur la manifeste, c'était à l'époque de la commissaire des voies fluviales, avait déterminé le nombre de gens qui devraient être au bord du navire. Mais arrivé tout justement au niveau de Bétier Cambolais, bien l'arrêt Cambolais, c'est tout près de la résidence du président honoraire Joseph Kabila, mais nous avions vu, nous avions été repris d'un monde qui était venu envahir la barque. Bon, nous nous sommes dit, au niveau de débit central, la manifeste était bien remplie, mais à ce niveau, c'est monde ici qui est venu nous envahir. Est-ce que nous allons quand même atteindre l'itinéraire? Monsieur le journaliste, les gens qui conduisent les barrières n'ont même pas des soucis des armes qu'ils conduisent. Arrivons au niveau de Locando, c'était déjà la nuit, mais les capitaines avaient fait les forcing de nos conduits même pendant la nuit. Mmh. Chose qui avait conduit à, nous avions ici, c'est la vie, ça, c'est parce que Dieu nous avait fait grâce. Mmh. On utilisait des groupes, au milieu du fleuve, l'un avait cédé, ne fonctionnait plus. Maintenant, nous avons été en train d'être conduits par la pression des courants d'eau. Heureusement, nous n'avions pas chaviré parce que Dieu avait fait sa grâce. Maintenant, arrivé au niveau des tronçons, Bumba Lissala. Mm. Un capitaine de bateau, monsieur le journaliste, il s'est donné le courage de nous laisser, près de Lissala. Il s'était retourné faire ses histoires, ses affaires privées, hein. Il nous laisse au milieu des eaux du fleuve Congo. Et après, nous avons fait deux jours, hein, sans avoir la suite des capitaines. Maintenant, si le pire nous arrivait à son absence, il devrait être. J'ai dit que ce qui se passe sur la voie fluviale, c'est comme si ce sont les administrations parallèles qui se fait avec entre les gouvernements et les gens navigants. C'est pourquoi je reviens encore pour demander au ministre des Transports, s'il est trop occupé, mais qu'il cherche quand même à mettre les gens qui auront quand même les suivis, de suivre quel type de navire qui peut naviguer sur les eaux du fleuve. Parce que certains navires qui naviguent, vous les regardez apparemment comme ça, vous jugez tout simplement pour dire que ce sont des cercueils qui survolent les eaux du fleuve Congo. En tout cas, c'est ça ce qui a été mon avis. Vu que je m'étais préparé pour donner beaucoup de détails sur ça, j'ai été surpris par le sujet. C'est ça ce que je devrais mettre comme les points de vue. Merci pour la parole m'accordée.
Merci beaucoup, Monsieur Kishima. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Je me tourne vers vous, professeur. On a suivi ensemble, hein, ces témoignages patents de ces périples que cet auditeur a connu depuis la partie orientale jusqu'à atteindre Kinshasa. Comment commentez-vous sa déclaration, son témoignage? Ça, c'est vraiment un récit de vie.
Oui, donc c'est un témoignage très très important et ce témoignage montre également que nous avons vraiment des défis importants à relever dans le secteur de transport maritime en République démocratique du Congo. Et les défis sont là. Il a parlé de l'absence du contrôle, je crois que nous l'avions déjà dit. Il a parlé également de la formation du personnel navigant. Donc il y a du travail à faire au ministère des Transports et Voies de Communication. Le travail est là. Le secteur des transports fluviales devient un cauchemar pour les Congolais qui empruntent cette voie. Je crois qu'il est très important de prendre des mesures qui s'imposent, ne pas trop parler, parce qu'on a l'habitude de beaucoup parler, à la fin sur le terrain, zéro. Donc, prendre de véritables mesures, mais des mesures qui doivent être appliquées pour assurer le contrôle, mais il suffit de former les personnels qui doivent, il faut que ces gens soient également payés, sensibiliser les gens pour que le travail se fasse. Pour les personnels navigants, nous avons l'école de navigation ici, insister, contrôler, pour que celui qui pilote une unité flottante ait une formation pour se faire. Mais s'il n'a pas de formation, il ne le fait pas. Donc, ce ne sont pas des choses qu'il faut aller au paradis pour les faire, mais ce sont des choses que les hommes peuvent faire, mais il suffit un peu de volonté pour que le secteur des transports puisse être vraiment la clé de base du développement de notre pays. Alors, si vous le permettez, Tati, je voudrais ajouter les solutions par rapport à tout ce que nous pouvons appeler comme désastre dans le secteur des transports fluviales en République démocratique du Congo. Et comme nous connaissons les causes de nombreux naufrages sur les eaux de la République démocratique du Congo, les solutions sont simples à mon avis. Les solutions simples, pour le manque de moyens, il faut trouver des mécanismes pour trouver des ressources nécessaires pour entretenir et aménager dans la durée les voies d'eau navigables de la République démocratique du Congo. Sur ce point, en ce qui concerne l'entretien, il faut le dire aussi, l'expérience a montré que dans le secteur routier, il y a quand même une avancée qu'il faut saluer. Aujourd'hui, nous avions connu des problèmes ici sur la route Matadi et tout ça. On n'est pas parti à la Banque mondiale, au Fonds monétaire, pour aller demander l'argent. Les fonds
à mobiliser les ressources. Nous avons déjà un mécanisme important, un mécanisme dynamique qui permet de collecter les ressources et les affecter, bien sûr, à ce qui concerne l'entretien des routes qui ont été construites. Et on a vu ici que les travaux étaient en train de se faire le plus rapidement possible. C'est parce qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place pour collecter les ressources. Cela aussi est valable pour les voies d'eau navigables et les chemins de fer en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, depuis 2021, au niveau de la présence de la République, l'Agence congolaise de la transition écologique du développement durable, qui est un service spécialisé au sein des cabinets du président de l'Afrique, avait déjà travaillé sur cette question. Donc, des propositions de textes avaient été déjà rédigées avec l'acte avec les différents ministères sectoriels, transport, économie, finances et autres. Il y a eu les décrets portant création et opérationnalisation du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Il y avait également les deuxièmes textes qui étaient déjà écrits depuis 2021, et c'était un arrêté interministériel qui fixait les ressources, les modalités de collecte et de répartition de ces ressources pour que les voies d'eau, tout comme les chemins de fer en République démocratique du Congo, soient entretenues dans la durée et réduire au maximum les nombres d'accidents. Et je dis, tout le monde le sait, le plus important, c'est pas de construire une voie ou une route, mais le plus important, faire, c'est comment entretenir dans la route qui a été construite.
Exactement.
Voilà, ça pose problème, surtout en République démocratique.
Donc,
mais nous, oui, il y a plus de choses à inventer. Parce
professeur,
que
donc
routier, nous avons
monsieur Jean de Deminez-vous, s'il vous plaît, ces fonds, oui. Donc, c'est cette entité qui est censée collecter localement à travers les pays des ressources pour maintenir, faire des balisages, mettre des bouées, des repères dans les cours d'eau.
Bien sûr. Donc, ce fonds, c'était pratiquement l'équivalent du FONER. Mais finalement, sur les secteurs du voie fluviale et ferroviaire. Donc, ce fonds devrait collecter les ressources au niveau local. Déjà, il y a des ressources qui sont déjà collectées, mais qui prennent une direction inconnue. Ou on ne sait pas. Je vous donne un exemple étatique. Il y a ce qu'on appelle la redevance logistique terrestre. C'est-à-dire, pour tout conteneur qui sort ou qui entre en République démocratique du Congo, il y a un montant que les opérateurs économiques payent. Cet argent devrait servir pour entretenir la voie ferrée. Vous avez vu quelle voie entretenir ici dans ce pays. Vous êtes ici à Kinshasa, ici. Voyez la voie qui nous amène à Matadi. La redevance logistique te réfère à quoi? Mais la voie, elle est dans quel état? Tati, vous êtes ici. Moi, je pars, je vois ça. Vous allez ici au Congo central. Où est-ce qu'on a entretenu ça?
L'argent est collecté, l'argent est prélevé.
L'argent est prélevé et les plus forts s'en accaparent pour leur bien au détriment de la société. Et nous avons pris toutes ces taxes, toutes ces redevances qui sont déjà collectées. On a créé d'autres taxes telles que Green Pass et d'autres. On les a mis ensemble et en par an, on pouvait collecter pas moins de 80 millions de dollars pour assurer l'entretien et l'aménagement, que ce soit des voies d'eau et des chemins de fer en République démocratique du Congo. Donc, depuis 2021, les propositions de textes ont été rédigées, mais comme la loi l'exige, et le pouvoir de créer un établissement public, parce que c'est un établissement, relève de la responsabilité du Premier ministre. C'est ainsi que vous avez vu, si vous revenez sur le programme que le Premier ministre récent m'avait présenté, à la page 35, il faut les lire, il parle de l'accélération de la mise en œuvre du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. C'est lui qui devrait faire. Et il avait mis ça dans son programme. Malheureusement et curieusement, Premier ministre pendant trois ou je ne sais pas combien d'années, il est parti sans toutefois créer l'établissement qu'il avait déjà indiqué dans son propre programme. Donc, je crois que c'est un projet qui devrait aider la République démocratique du Congo de mobiliser les ressources, de nous engager sur la voie du développement durable et de réduire les nombres d'accidents en ce qui concerne l'entretien sur les voies d'eau navigables.
Oui, mais, vous allez oui, voir mais si... aujourd'hui, oui. Où est-ce que nous en sommes? Parce que Monsieur le Premier ministre Samalou Kondé, il a quitté le gouvernement, maintenant il est à la tête du Sénat. Et à ce stade, comment ça évolue les dossiers? Est-ce que il y a une nouveauté ou le projet il n'avance pas?
Le projet n'a pas beaucoup avancé. Ce ne sont pas des accusations gratuites. Ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un. Prenez les programmes que le premier ministre Malcolm avait présentés à l'Assemblée. Lisez ça à la page 35. Je crois que la troisième ou la quatrième ligne. Accélérer la mise en place du fonds d'entretien des voies fluviales et fleuves. C'est pas moi, c'est lui. Est-ce qu'il a fait ça? Il y en a pas. Il y en a pas. Donc le projet n'a pas beaucoup avancé à cause des intérêts des individus qui trouvent dans ces taxes qu'ils prélèvent leurs intérêts personnels et laisser la République. Donc ils sont là, ils attendent. Quand les gens sont morts à l'Équateur, non. Et les gouvernements compatissent. Pourquoi vous êtes en train de compatir alors qu'il y a des choses qu'on pouvait éviter? On pouvait éviter ce genre de choses.
On retourne au standard, permettez-nous.
Il y a un problème sérieux d'entretien.
On vous garde en ligne, professeur, le temps de donner la parole à la deuxième vague des auditeurs hein, qui veulent prendre la parole. Quels sont les préalables à réunir hein, pour réduire la fréquence des noyades dans les cours d'eau de la République démocratique du Congo? Si ce sujet vous interpelle, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Paul Osonga, bonjour et bienvenue dans Capi Service. Monsieur Polo, est-ce que vous m'entendez?
Bonjour.
Bonjour.
Oui.
On vous donne la parole. Hein.
Proverbe de Sud Kivu.
À Bukavu spécialement.
Province de Sud Kivu, territoire de Calais.
À Calais. Parfait, on vous donne la parole. Malheureusement, la liaison s'est interrompue avec l'auditeur de Calais. Professeur, je me retourne vers vous. Oui, je disais, vous avez dit que ça n'a pas vraiment avancé. À ce stade, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, on ne cesse d'enregistrer des cas de noyades et de naufrages sur les cours d'eau de la République démocratique du Congo. Et est-ce qu'il y a des solutions efficaces? Parce qu'au niveau de la ville de Kinshasa également, pas plus tard qu'hier, hein, on a procédé au lancement des pirogues fluviales, des yachts qui vont commencer à assurer les transports en commun à partir de la gare centrale du centre-ville de Bijingobila jusqu'à Maluku. Sans pour autant prendre des précautions sur tout ce qui est lié au balisage et autres.
Oui, je crois qu'il y a quand même l'espoir. Il faut continuer toujours à travailler. Donc, les textes ont été encore retransmis de nouveau à la Première ministre, mais également au ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, pour que des dispositions nécessaires soient prises. On ne doit pas être une république qui vient seulement enterrer les gens. On doit être une république qui peut prévenir les morts, c'est des situations qui peuvent être contrôlables. Donc, je crois que sur ce plan, vous l'avez suivi, Tati, déjà en 2021, lors de son adresse à la population, le président de la République, devant les deux chambres du Parlement réunies, avait instruit le gouvernement pour opérationnaliser le FONEF. Ça, vous pouvez le trouver, vous avez toutes ces informations. Message du président de la Nation 2021, 2022, et 2024, récemment ici, vous allez trouver, le président a instruit de nouveau les gouvernements pour opérationnaliser les FONEF. Plusieurs années s'écoulent, les gens meurent, personne, les gens ont leur tête ailleurs, et personne ne peut obtempérer.
Oui, mais là c'était en 2021, 4 ans plus tard, on est en 2025.
Oui, mais en 2024, le président est revenu sur la création du FONEF, il a dit, il a demandé au gouvernement d'opérationnaliser ce FONEF, pas seulement pour réduire le nombre de noyades, mais c'est pour aider les pays à s'engager sur la zone de la libre échange continentale. On ne peut pas être dans cette zone avec des cours d'eau qui servent de voie d'évacuation des produits, mais qui sont dans un état délabré. Il faut s'engager réellement sur cette voie. Donc, le président l'a dit à plusieurs reprises. Le travail aujourd'hui, c'est de la responsabilité de la première ministre, Judith Suminwa.
Les textes, les propositions de textes existent, mais il y a seulement mauvaise foi. Parce que les gens ont des intérêts cachés qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la République. Je vous ai parlé de la redevance logistique. Il y a plusieurs taxes qui sont collectées, que les gens détournent. Et ils ne veulent pas que ces taxes soient canalisées vers un fonds pour une gestion orthodoxe et permettre au pays de pouvoir avancer. Ce sont ces gens qui deviennent finalement un obstacle à la mise en place d'une structure qui doit aider le pays à s'engager sur une gestion responsable de cours d'eau et des chemins de fer en République démocratique.
Permettez-nous de retourner au standard. Professeur Jean-Lédé Minengou, nous rappelons que vous êtes coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise pour la transition écologique et le développement durable, porteur du projet portant création du Fonds national d'entretien des voies fluviales et ferroviaires FONEF en sigle. On vous garde en ligne, hein, le temps de donner la parole aux auditeurs. On retourne au standard pour donner la parole à Monsieur Emedi, qui nous appelle de Bounia en Ituri. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Oui, bonjour Tati.
On vous donne la parole.
Oui, merci pour la parole que vous m'accordez. Vous savez, le sujet que vous avez soulevé, c'est un sujet très important, parce que la Constitution le dit, même la mais malheureusement, dans le domaine de la vie, la sacralité de la vie n'est pas prise en considération. Je vais vous donner un témoignage que j'ai vu en 2004. Je devais quitter le territoire de Mahagi, précisément le port qu'on appelle Kambo. Nous avons pris l'embarcation. Maintenant, ce sont des embarcations localement. Comme il y avait beaucoup de gens qui devaient être embarqués, voilà que la vie, on devait jouer avec nous. La première embarcation, la deuxième devait être tirée par la corde. Arrivé sur à pleine eau. Il faut voir notre vie, comment on a vécu. Mais Dieu est grand, on est capable. La responsabilité est partagée à trois niveaux. En premier lieu, c'est l'État congolais lui-même. Moi, j'étais aussi agent de 2004 à 2005. On ne pouvait même pas contrôler le budget. Il suffit que celui qui a chargé déjà son bateau arrive et nous donne l'argent, nous récupérons l'argent. Après, du compte, donc, parce que même si nous voyons, nous constatons qu'on peut décharger d'autres choses, mais devant l'argent, qu'est-ce qu'on devait faire? On récupère l'argent parce que nous ne pouvons pas payer par l'État. L'État doit prendre à charge les agents maritimes. Ça va permettre à ceux qui fassent le travail sans une ambiguïté. Ça, c'est au premier niveau.
D'accord.
Au deuxième niveau, c'est une opération économique. C'est-à-dire les propriétaires de terres. Et aussi, ils doivent savoir qu'il y a du risque. Parce que si c'est votre barque qui va maintenant chavirer, toutes les charges vont revenir sur toi. Donc, ils ne voient pas tout ça. Ils doivent aussi prendre conscience à ce niveau-là. Parce qu'il ne faut pas mettre seulement en tête que vous pouvez se bénéficier de l'économie. Mais ça arrivera à un certain moment où la vie va finir. Vous risquerez de perdre tout l'argent que vous avez investi pendant beaucoup d'années.
Oui.
En troisième et dernier niveau, c'est la responsabilité des passagers eux-mêmes. S'il vous plaît, j'ai suivi notre ami de Tungu qui a dit qu'arriver au niveau des groupes non navigables, mais on leur dit non, non, monter au niveau des stratégies, et eux-mêmes, la vie maintenant, il n'a pas accepté de monter. Mais ceux qui ont joué avec leur vie ont risqué leur vie. Alors, à trois niveaux-là, chacun doit prendre ses responsabilités. Et je pense que tout ira bien. Mais la plupart des responsabilités, ça revient à l'État. Parce que chaque fois, quand on connaît les embarcations, les messages de condoléances, on prend des mesures, mais pas vraiment faire le suivi.
Oui, et puis on oublie.
Les ports de Guinée, s'il vous plaît, les ports de Guinée. Est-ce qu'on contrôle même tout ça? Mais on ne contrôle même pas. Voilà, c'est ça mon intervention.
Merci beaucoup. Hein. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia que vous intervenez. Excellente journée hein, pour vos témoignages assez éloquents, assez patents, ainsi que vous avez situé intelligemment les problèmes à trois niveaux. L'invité aura aussi le temps d'émettre un avis par rapport à tes propositions. Excellente journée au niveau de la ville de Bounia. On retourne ici à Kinshasa pour donner la parole à Elvis. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Allô, bonjour. Bonjour, c'est à l'invité.
On vous donne la parole.
Ouais, je voulais parler parce que c'est un sujet récent. Parce que je voulais parler de mon contrée, c'est la voie où peut-être la majorité des gens empruntent pour rejoindre Kinshasa, la voie maritime. Parce que dans la province de Sankuru, la seule destination c'est Libélé-Dibaya. Alors voilà, et là-bas il n'y a pas assez de bateaux qui arrivent là, il y a seulement que des balnéaires. Mais la réalité sur terrain, parce que c'est la voie où j'ai aussi emprunté. C'est ce que l'invité a aussi évoqué dès qu'il a commencé son intervention. Il a bien dit que c'est qu'est-ce qui arrive là-bas. Lorsque vous payez seulement les montants, c'est-à-dire les frais qu'on va vous demander de payer, 50 000, 40 000, les poids que vous aurez, tout ce que vous allez mettre, vous n'avez pas un problème, il n'y a pas de contrôle. Et avec les bannières que nous venions avec, ils sont de les charger en cours de route. Alors, il n'y a pas de limite. Par exemple, parce qu'il y a un bannier là, BL, que je suis baigné avec. On arrive au buffet de Ilebo. Ils chargent les riz, ils chargent les tout ça, ils prennent la route. Alors que nous sommes au nombre de 58 passagers. Chacun avec sa charge.
Et vous prenez des passagers, le long du fleuve.
Ils les prennent aussi. Alors, arrivé quelque part, vous allez vous retrouver qu'il y a mes attentes entre les mécanos, parce qu'il y a un mécano, il y a un chauffeur et l'éclaireur. Alors, vous pouvez vous attendre que l'éclair se fasse, il faut maintenant cotiser de l'argent au niveau de bannière là pour le satisfaire, pour qu'on puisse décoller. Je vous dis, les réalités. Non, je n'arrive pas. Si vous essayez un peu d'entrer en profondeur ce qui s'est fait au niveau de la voie maritime, il n'y a pas de contrôle. Ou peut-être celui qui est peut-être le chauffeur, et parce que là-bas, avec les bannières, on se voit les moteurs, les moulins à vent là qu'on disait souvent là-bas. Je trouvais qu'il y a à un moment, on est bloqué peut-être pendant la nuit, comme ça on est bloqué, on s'est arrêté. On peut même passer toute une journée là. Parce que tous les dés et les mécanos et l'éclairage, les chauffeurs ne sont pas d'accord. Ils peuvent quitter les bannières, ils vous laissent, ils peuvent aller dans un village aux environs, ils passent la nuit là-bas, vous êtes toujours là, à te les entendre. Si la pluie doit vous tomber seulement sur les corps, vous êtes là, vous allez les attendre. Dès qu'on va arriver à Dibaya, il n'y a pas de plainte, on n'a pas de contrôle, il n'y a pas de... Chacun prend sa route. Alors, peut-être un peu, recadrer un peu ce secteur. Je vous ai aussi entendu parler, vous avez dit qu'on a lancé
Les fonds nationaux d'entretien, les fonds nationaux d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Ça, c'est un projet, c'est pas encore.
Garantie, mais c'est
il n'est pas encore matérialisé, donc c'est un projet qui est en train d'avancer.
On a vu lorsqu'il y avait l'inondation ici à Cartier. Le gouverneur est venu avec un navire.
Ouais.
Alors, le navire est venu tomber en panne. On a commencé à le pousser. Le gouverneur a titre. Vous pouvez imaginer qu'on commence à lancer les transports maritimes. Alors même qu'on n'a même pas. C'est trop.
Merci beaucoup.
Aussi les mots à dire, hein.
Merci beaucoup, monsieur Elvis, hein, pour ton témoignage. Oui. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Professeur Jean-Didier Minengou, nous rappelons que vous êtes coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. À écouter les témoignages des auditeurs, c'est très alarmant. Les gens, ils voient les risques, mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils doivent voyager. Et le corridor maritime est un canal très important pour la mobilité des personnes et de l'air bien à travers la République.
Oui, c'est-à-dire comme ils viennent de le dire, déjà à l'époque coloniale, c'était clair que les voies d'eau ont joué un rôle constructif pour le développement socio-économique de notre pays. C'est ainsi que le cuivre qui quittait les Katanga et venait jusqu'à Ilebo. À partir d'Ilebo, ça prend la voie fluviale d'Ilebo jusqu'à Kinshasa. À partir de Kinshasa, c'était le chemin de fer. Donc déjà, il y a plusieurs années, 60 ans avant, on était déjà dans ce qu'on appelle aujourd'hui les transports multimodales interconnectés. C'est-à-dire, là où on n'a pas de ressources pour construire peut-être les chemins de fer, les routes, s'il y a les eaux, on peut les utiliser pour assurer les transports des personnes et de leurs biens.
Oui, mais ces réseaux, a été désagrégé, professeur.
Oui, le réseau a été désagrégé à cause de la mauvaise gouvernance qui a plongé le pays dans le chaos dont les répercussions se font sentir jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi il est important de remettre l'ensemble de ces réseaux qui doivent être interconnectés, les voies d'eau, les chemins de fer, ainsi que les routes. Mais comme je l'ai dit, on peut bien construire le chemin de fer, mais le lendemain, après une pluie, en fait, les rails peuvent se couper. Il faut venir entretenir, il faut venir aménager. Mais il faut trouver des ressources.
Et s'il n'y a pas de moyens, c'est compliqué.
Celui qui vous a donné l'argent pour construire. Et s'il n'y a pas de moyens, c'est fini. Les trains ne sont plus passés. Donc, c'est ainsi qu'au niveau de la présidence, un travail avait été déjà fait. Comme les responsabilités sont partagées, la création de l'établissement relève de la responsabilité du Premier ministre. Actuellement, c'est Mme Judith. Et après la création de l'établissement, il y a un arrêté interministériel qui doit être signé par les ministres sectoriels, les ministres des Transports, les ministres de l'Économie et les ministres des Finances. Les textes ont été déjà rédigés avec les experts aussi de ces ministères. Mais je crois qu'il y a quand même une mauvaise volonté.
Oui, mais on ne peut pas. Oui, professeur, mais est-ce que.
On ne peut pas regretter à cause de toi. On doit continuer à foncer pour que l'établissement soit créé. Parce que le président a demandé au gouvernement de le faire et le gouvernement est dans l'obligation d'exécuter l'instruction du président de la République.
Oui, mais est-ce que ces fonds, une fois mis en place, ça, il ne va pas se rivaliser ou entrer en conflit avec les attributions des entités qui existaient déjà? C'est ça aussi le problème, professeur.
C'est un travail fait par les experts. Toutes les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas chevauchement ou pour qu'il n'aille pas prendre des taxes qui ne reviennent pas au fond. Le travail a été fait. Comme je vous l'ai dit, les taxes qui sont repérées, les redevances qui sont inscrites ici dans le projet de création des fonds, ce sont les taxes et les redevances qui sont déjà collectées, dont l'argent
qui existe déjà, inconnue.
Qui existe? Je vous ai parlé de la redevance logistique terrestre, c'est pour entretenir la voie ferrée. Vous êtes là-bas en ville, passez seulement là-bas à la gare centrale. Cette voie, elle est entretenue?
Non, presque à l'état d'abandon.
Alors, on va se taire devant des choses comme ça. La voie n'est pas entretenue. Mais l'argent, les taxes sont prélevées, les redevances sont prélevées, mais ça prend des directions inconnues. C'est ainsi que dans le travail qui a été fait avec les experts, nous avons pris toutes ces taxes qui sont déjà collectées, on les oriente vers les fonds pour que les établissements qui assurent l'entretien et l'aménagement des voies reçoivent des subsides pour réaliser le travail dans les conditions.
Oui, mais si l'argent est mobilisé, l'argent est mobilisé à travers les taxes, mais ces taxes sont affectées quelque part. Ça ne sera pas une décision inconnue, professeur.
Ça, c'est affecté à quelque part. Je vous ai parlé de la redevance logistique terrestre. Oui. C'est pour entretenir la voie ferrée. Où est-ce qu'elle est tu as vu la voie entretenir? Passer à la gare centrale. Moi, je traverse ça ici pour aller à la station de la faculté d'agronomie. Je traverse le chemin de fer. Où est-ce que la voie est entretenue? Mais pourtant, la redevance logistique terrestre existe. Dans la partie sud-est, c'est la SNC qui collecte cette redevance. Et dans la partie ouest, les chemins de fer, c'est Kinshasa Matadi, c'est l'ONATRA qui collecte.
Et il faut voir l'état des wagons. Il faut voir l'état des wagons et des voitures, des trains que nous utilisons. Je vous garde en ligne, le temps de donner la parole à Thomas, Thomas qui nous appelle depuis la ville de Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service, Thomas.
Bonjour monsieur Tati, et bonjour une fois de plus aux auditeurs, et aussi à l'invité. Monsieur Jody, Tati plutôt, je pense on ne cessera jamais de dire rien, les principes, mieux vaut prévenir que guérir. Monsieur Jody, pour faire face à ces problèmes-là, je crois la réglementation et la surveillance doivent être respectées, monsieur Jody. Monsieur Tati, la réglementation, pourquoi on n'arrive pas à comprendre? Il y a eu des mesures qui ont été prises, pardon. Mais pourquoi il n'y a pas la concrétisation ou l'effet de ces mesures, des mesures qui ont été prises? Ce sont aussi des problèmes. Il faut qu'il y ait la réglementation et la surveillance. On doit mettre en tout cas des mécanismes pour régler, en tout cas, les règles, les mesures pour assurer la navigation. On doit mettre en tout cas des surveillances. Les surveillances doivent être mises en place, mais également les réglementations quant à ça. Deuxième, comme piste de solution, monsieur Tati, il y a aussi l'éducation et la sensibilisation. Je crois qu'il faut informer la population sur les risques liés aux noyades et aux bonnes pratiques de sécurité. Est-ce que la population est vraiment... Il y a des
sensibilisations.
La radio Capi fait sa part, mais est-ce que dans les fins fonds du village, est-ce que les villageois qui sont de ces côtés-là, est-ce qu'ils sont informés ou ils sont éduqués face à ces problèmes-là? On doit mettre aussi cet aspect des choses. Mais également, monsieur, il y a aussi l'équipement de sécurité. Parce que normalement, on doit rendre en tout cas obligatoire le port des gilets de sauvegarde pour améliorer surtout l'accès à des dispositifs de secours. Est-ce que le port des gilets, est-ce que c'est obligatoire? Ça, on doit imposer. Tout le monde qui se trouve au bord doit porter ça. Ça doit être comme une exigence. On doit équiper quand même tous les passagers des outils ou des gilets pour prévenir. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver à tout moment. Il faut qu'il y ait des équipements de sécurité pour tous les passagers, y compris même les chauffeurs. Tout le monde qui se trouve au bord à l'intérieur doit porter ça pour ça peut contribuer aussi à prévenir cet aspect des choses. Mais également, comme le temps file rapidement là, il y a aussi le contrôle des embarcations. Ça, c'est très important. Je crois, au niveau des ports, on a des commissaires laquistes, je crois. Mais qu'est-ce que font ces gens-là? Normalement, ils doivent veiller à ce que les bateaux ne soient pas surchargés, qu'ils soient à bon état pour fonctionner. Est-ce que c'est les commissaires laquistes tiennent compte de cet aspect des choses? Contrôler les embarcations. Est-ce que toute embarcation doit être à mesure de est-ce que c'est un bon état pour quitter des milliers à l'autre? Cet aspect des choses également, on doit le faire. À mon avis, je crois, ces cinq piliers là, ce que je viens d'énumérer là, pour autant soit peut contribuer, surtout les contrôles là des embarcations, mais également la réglementation et la surveillance, ça pourra en tout cas énormément nous contribuer pour résoudre cet aspect des choses. C'est tout ça.
Monsieur Thomas, monsieur Thomas, j'aimerais également avoir votre avis, hein, parce qu'il y a un auditeur qui est intervenu précédemment, qui a témoigné qu'ils sont, parce que c'est un ex-agent dans le secteur qui a dit qu'ils sont sous-payés, ils sont presque pas payés, et comme les cours d'eau ne sont presque pas entretenus, ACTAID, donc, qui est l'agence congolaise, des transitions écologiques et développement durable, qui dépend de la présidence, a proposé de mettre en place un fonds national d'entretien des voies fluviales et ferroviaires FONEF pour essayer un peu d'amener des ressources qui vont aider les gouvernements à assainir, à améliorer les conditions de mobilité dans nos cours d'eau. Que pensez-vous de cette idée?
L'initiative est salutaire, monsieur Jody. C'est ça ce que nous attendons. C'est ça ce que nous attendons. Comment on ne peut pas dans des secteurs comme les transports là, parce que ce secteur-là, c'est la vie des gens qui est en danger. Je ne sais pas qu'est-ce qui tarderait ou qu'est-ce qui bloque cet aspect des choses-là. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas l'argent. L'argent, il y en a ici. On détourne des millions et des millions. Mais pour résoudre des petites choses-là, ça pose un sérieux problème. Je pense qu'on doit être sérieux dans ce qu'on fait. L'État a les moyens. C'est seulement question de la bonne volonté qui manque. C'est tout simplement ça. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas l'argent. Il y a l'argent et... dans de pareilles situations-là, on doit s'impliquer dans ça, l'État doit donner les moyens, mais également, ces fonds qui doivent être mis doivent être effectivement alloués pour résoudre ces pareilles choses. Il ne faut pas que l'argent qu'on doit décaisser par après, ça puisse avoir dans d'autres choses également. On doit résoudre les pareilles choses-là lorsqu'on débloque l'argent. D'ailleurs, c'est un souhait à ce que le gouvernement puisse faire des gestes pareils pour tant qu'on peut soulager les agents qui travaillent, parce que les salaires ont un caractère alimentaire, monsieur Jody. On ne peut pas travailler aussi longtemps qu'on n'est pas bien payé. C'est ça ma contribution, monsieur Jody.
Merci beaucoup, monsieur Thomas. Excellente journée à Bounia, Nitouri. Je me tourne vers vous, professeur. Comment commentez-vous les propos de notre auditeur de Bounia? Ce ne sont pas des ressources qui font défaut d'après lui.
Oui, mais il a pleinement raison. Donc, il n'y a pas un problème de ressources, mais il y a un problème de volonté pour faire avancer la République, pour faire avancer le secteur. Ça, il faut le dire, que les ressources ne manquent pas pour entretenir les voies fluviales de la République démocratique. Les ressources existent. Il suffit de les canaliser pour que les voies d'eau de la République démocratique du Congo soient entretenues et aménagées et faciliter la mobilité des gens. Je suis d'accord avec lui quand il parle de la réglementation. Je l'ai dit ici déjà que les textes qui régissent le secteur de navigation en République démocratique du Congo datent de l'époque coloniale. C'est pourquoi vous allez voir les décrets 1926, les décrets de 1930, les décrets du roi de Belges qui datent de l'époque. Ce sont ces genres de textes qui régissent les secteurs fluviales et voire même ferroviaires en République démocratique du Congo. Mais il y a un travail qui doit se faire pour l'actualisation des textes. Déjà au niveau de l'Agence congolaise de la transition économique.
Et généralement pour baliser, généralement on s'appuie sur l'appui extérieur pour baliser nos cours d'eau et ce sont des appuis ponctuels. C'est compliqué.
Bien sûr. Bien sûr, Tati. Pour baliser les eaux, vous avez vu ici. Et la RVF a maintenant des baliseurs multifonctions, mais ces baliseurs ont été entièrement financés par l'Union européenne.
Exactement.
Mais si le fonds est créé, mais bien sûr les baliseurs existent, vous avez suivi que la RVF avait commencé les travaux de balisage ici, mais les travaux se sont arrêtés. Par manque de quoi ?
Faute de moyens.
Financement, il n'y avait pas de ressources.
Tout à fait.
Faute de moyens. Tati, nous devons apprendre à être sérieux. Le respect que l'humanité donnera à la République démocratique du Congo, ça ne dépend pas de notre grandeur en tant que pays. Ça dépend de la qualité des services que nous rendons à la société.
En conclusion, professeur, que devons-nous retenir en conclusion ? On est déjà à la fin du temps imparti au rendez-vous.
Merci. En conclusion, ce qui se passe sur le voie d'eau navigable de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas des défis insurmontables. Ce sont des défis surmontables. La réglementation, il y a l'entretien des voies, il y a la formation du personnel navigant. Tout ça, nous pouvons le faire ici, au Congo, sans toutefois passer par beaucoup de gens. Donc, les intelligences, les ressources existent pour que nous puissions apporter des solutions dans les secteurs de la navigation, tout comme les chemins de fer en République démocratique du Congo.
Merci beaucoup, professeur Jean-Denis Minengou. Professeur, on est coincé par les temps. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable ACTEC dans sigle et porteur du projet portant création du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires Fournef en sigle. Excellente journée. Et c'est par ici que j'ai clôturé ce magazine au Capi Service. Kavira, elle était à la réalisation et Alain Goy s'est occupé de la prise des sons. Au revoir et à très bientôt.